Innovation.
Innovation.
Qu'en dira-t-on ?
Qu'en dira-t-on ?
À l'occasion de la 14e édition de la Journée nationale de l'innovation au Centre des congrès à Reims, Cadécole est allée tendre son micro aux différents porteurs et porteuses des projets sélectionnés. Comme tous les ans, cette journée a récompensé l'esprit d'initiative et la créativité des personnels de l'éducation nationale. L'équipe de Cadécole a décidé de mettre à l'honneur certains projets dans sa série « L'innovation, qu'en dira-t-on ?». Nous allons mettre en dialogue deux projets de classe flexible. D'une part, le projet École flexible autour du centre de littératie de la petite section au CM2, de l'école primaire Roche-Béranger à Champs-Rousses dans l'académie de Grenoble, dont va nous parler Karine Savoya, professeure des écoles et directrice. Bonjour Karine Savoya.
Bonjour.
D'autre part, le projet Réussite et bien-être, en route vers des pratiques flexibles, du collège de l'Alaric à Capendu, dans l'académie de Montpellier, qui nous sera présenté par Céline Escourou, coordinatrice Ulysse au sein de ce même collège, et par Jérôme Cavaroc, professeur de SVT et de mathématiques, également au collège de l'Alaric. Bonjour Céline Escourou.
Bonjour.
Et bonjour Jérôme Cavaroc.
Bonjour.
Alors, votre projet, Karine Savoya, consiste à s'appuyer sur des centres de littératie pour mettre en œuvre un enseignement flexible du français. Mmh. Vous avez mis en place des espaces centrés sur une activité en lien avec la maîtrise de la langue. Mmh. Donc, pouvez-vous nous présenter le projet ? Quels sont ces espaces ? En quoi consiste-t-il ? Et à quelle fréquence les élèves y ont accès ?
Alors, peut-être qu'il faudrait définir ce que c'est que des centres de littératie, oui. Car le terme en lui-même n'est pas français. D'ailleurs, il est souligné dans Word, etc. Donc, ça vient du Canada. Donc, il s'agit en fait tout simplement de centres autonomes à la base, de centres autonomes qui travaillent l'ensemble des compétences de maîtrise de la langue, donc en lecture, communication orale et écrite, etc. Et donc, des centres autonomes qui permettent aux élèves d'approfondir ou de consolider des compétences, tout en leur laissant quand même beaucoup d'initiatives, d'autonomie, on voit naître la coopération, l'entraide entre eux, puisque ce sont des centres autonomes, et aussi en permettant aux enseignants d'avoir des modalités d'intervention assez diverses, à savoir soit des groupes homogènes, hétérogènes, des grands groupes, petits groupes, des interventions individuelles ou voire en duo. Donc voilà pour la définition. Après quoi, nous, dans l'école, on a fait le choix de l'adapter à notre école de deux classes, puisque je pratiquais cette méthode-là que dans ma classe initialement. Nous l'avons ouverte aux deux classes, donc nous avons créé quatre centres. Un centre de l'oral, un centre de l'écrit, et un centre de l'étude de la langue et un centre de lecture. En sachant que pour les maternelles, nous avons créé un autre centre, enfin deux centres de lecture, entre guillemets, parce que les bibliothèques maternelles et élémentaires sont quand même assez, assez différentes en termes de livres, etc. Comment cela se passe-t-il ? Donc, tous les jours, de manière quotidienne, les élèves pratiquent donc les quatre centres, donc sur des rotations d'une vingtaine de minutes.
Alors, votre projet, Céline Escourou et Jérôme Cavaroc, est également un projet de classe flexible, avec la mise en place d'un dispositif d'aide aux devoirs et d'aide à la mémorisation et à la concentration. Alors, pouvez-vous, à votre tour, nous présenter votre projet, les dispositifs mis en place dans votre classe ?
Alors, c'est un projet qui est parti sur le constat que nos élèves avaient un manque d'implication et des problèmes de mémorisation tout au long des apprentissages. Et donc, on a commencé par introduire tous les apports des sciences cognitives dans les devoirs faits, c'est-à-dire par la petite porte, pour commencer à former les élèves et former les enseignants aux sciences cognitives. Suite à ça, les enseignants ont exprimé une demande, un besoin d'être formés sur ces sciences cognitives. Donc nous avons commencé à les former en ouvrant des classes cognitives.
En fait, on a utilisé l'heure de devoir fait pour apprendre aux élèves comment apprendre. On leur a appris comment fonctionnait leur cerveau, comment on fait pour être attentif, quelles sont les bonnes méthodes pour mémoriser, qu'il n'y a que le questionnement qui permet de bien mémoriser sur le long terme. Du coup, on a fait rentrer les sciences cognitives au collège et on s'appuyait sur les apports des sciences cognitives pour changer nos pratiques de classe. Et là, on a fédéré une équipe on avait une douzaine d'enseignants et surtout 5 AESH où on s'est formé toute l'année sur les sciences cognitives et on a mis en place des pratiques pédagogiques en utilisant les apports de la recherche.
Suite à ça, les enseignants ont changé de posture. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une posture où ils étaient face aux élèves, en frontal, ce qui arrive souvent au collège, on est passé à une posture où on s'est retrouvé à côté des élèves. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler sous forme de ce qu'on appelle des plans de travail, des feuilles de route. Ça veut dire que chaque élève avait une activité qui était adaptée à ses capacités. Et ça veut dire que les élèves avaient un panel de travail à faire et chacun piochait dedans ce qu'il voulait sur un thème. Ce qui permettait à l'enseignant de se concentrer sur un élève ou sur un groupe d'élèves à besoin particulier, sachant que les autres étaient en autonomie.
En parallèle de ça, on a développé un programme Erasmus où on a travaillé sur un collège plus inclusif. Donc, on voit avec 5 autres pays et l'IME de notre commune, on met au point dans différents thèmes des stratégies pour répondre aux besoins particuliers de tous nos élèves. Parce que chacun a des besoins particuliers. En fait.
Voilà, ce changement de posture a entraîné un besoin pour les enseignants de changer la disposition de la classe. Et c'est là où on est arrivé à la classe flexible. Donc, c'est vraiment un aboutissement. On n'est pas parti à l'envers en disant on fait une classe flexible et après on voit comment on peut l'utiliser. Ça a été vraiment susciter le besoin et le fait de s'organiser différemment. C'est-à-dire que les élèves, certains ont besoin de travailler en individuel, d'autres ont besoin de travailler en groupe, d'autres ont besoin de travailler debout. Et en fait, en s'adaptant aux besoins de chacun, on a commencé à changer la structure de la classe. Et c'est là que le projet NEF nous a permis de faire le financement de cette organisation de classe.
Vous avez parlé des plans de travail, par exemple. Est-ce que vous voulez développer sur les outils que vous mettez à disposition des élèves, justement pour favoriser la mémorisation et la concentration des élèves, même les outils matériellement présents dans votre classe? Est-ce que vous voulez développer un peu ça?
Alors, on va parler des outils. Alors, d'abord, pour la mémorisation, on a mis en place plusieurs choses. On a ciblé les essentiels. On a créé des fiches de mémorisation, soit créées par l'enseignant, soit co-créées avec les élèves, soit c'est les élèves qui les créent. On a une boîte à questions qui tourne dans la classe et en chaque début de classe, le professeur réactive, même si ce n'est pas une question de sa matière. Ça permet de réactiver des matières qui n'ont qu'une heure d'enseignement. On a fait un calendrier expansé sur comme on a ciblé nos essentiels. On réactive plusieurs fois dans l'année les parties essentielles du programme parce que les élèves savent très bien que c'est normal d'oublier et qu'il faut réactiver pour mémoriser sur le long terme. On a mis en place des cocottes en papier aussi. On a des outils numériques avec Quizlet, on utilise Plickr, Scout.
Alors, pour la mémorisation, je voulais compléter parce qu'en fait, on a eu besoin de changer la façon d'apprendre et de mémoriser à long terme parce que les élèves, quand on leur disait « apprendre la leçon », tous les élèves qui sont issus de familles qui ont en général réussi leurs études savent ce que ça veut dire apprendre. Mais nous, on est en milieu rural très défavorisé. La plupart des familles sont très éloignées de l'école. Et apprendre, qu'est-ce que ça veut dire apprendre une leçon? J'apprends quoi? J'apprends par cœur? Eh bien, apprendre, ce n'est pas apprendre par cœur. C'est pour ça qu'on a décidé de flécher les essentiels. Donc, on dit aux élèves, ils n'ont plus de cours à apprendre à proprement parler. Mais par contre, ils ont une série de questions et ils doivent savoir y répondre. C'est-à-dire que là, ils savent exactement de quoi, quelle est la réponse, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour pouvoir continuer. Et donc, c'est nous qui avons dit aux élèves qu'est-ce qu'ils doivent apprendre et aux parents aussi. Parce que les parents, ils sont capables de poser des questions et d'attendre que leur enfant réponde à la bonne question. Alors que faire réciter une leçon, beaucoup des parents ne savent pas ce que ça veut dire.
Du coup, on a mis des outils aussi, on a mis de la ludification en place. On a mis en place des escape games, il y a des jeux, il y a plein d'activités. Et bien sûr, après, tout ce qui est plan de travail, où on personnalise les parcours. Donc, on a des plans de travail, on a des feuilles de route. Dans les plans de travail, il y a un panel d'activités et les élèves peuvent les faire dans l'ordre qu'ils le souhaitent.
Donc, vous mettez tous les trois en place un projet de classe flexible. Dans ce cadre, l'autonomie des élèves est souvent mise en avant. Alors, Karine Savoya, quel est le degré d'autonomie, justement, de vos élèves? Est-ce que vous les guidez vers tel ou tel espace selon leurs besoins ou est-ce que, ou pas? Enfin, comment vous vous organisez?
Alors oui, guidés, puisque nous sommes un peu contraints par les espaces que nous partageons avec les maternelles. Donc forcément, il y a des rotations qui sont imposées. Après quoi, il y a toujours une dizaine, 10, 12 élèves par centre. Et là, au sein de ces centres-là, nous avons des élèves qui, en fonction de leurs besoins, et je pense que c'est le maître mot, en fait, finalement, que l'on entend, c'est qu'ils vont soit demander un temps privilégié avec l'enseignant, soit demander un temps dans, par exemple, dans le centre des écrivains, avec des conférences Happy, enfin que j'ai nommé Happy, le A pour ce qu'on a aimé. Donc l'enfant est un auteur, avant tout un écrivain. Il décide à un moment de nous présenter son texte, il nous le lit. Et là, lors de cette conférence-là, on lui fait part, donc le A de ce que l'on a apprécié, ce qu'on a aimé, le P, donc là, toutes les interrogations, on lui pose des questions sur les problèmes de compréhension de son texte, et le I, on lui donne des idées. Après quoi, chacun va partir dans... Alors là, ils gèrent leur temps, ils gèrent... ce sont eux qui finalement s'organisent et décident de, soit dans le centre des écrivains par exemple, de taper leur texte, de l'illustrer, de partir sur de nouvelles idées, d'aider les autres, etc. Les centres de lecture par exemple, parce que c'est vrai que tout à l'heure je me suis rendu compte que je n'ai peut-être pas forcément bien spécifié ce que c'était que ces centres. Dans les centres de lecture, ça peut être de la lecture active, ça peut être de la lecture de l'affluence, ça peut être de la lecture plaisir, du centre d'écoute. Donc il y a une diversité dans les centres, au sein même des centres, qui permet à chacun finalement de s'orienter en fonction de soit ses besoins, ses envies du jour, etc.
Céline Escourou et Jérôme Cavaroc, vous mettez l'autonomie et la coopération entre les élèves au premier plan. Comment vous les favorisez ?
En fait, déjà, on les forme à la coopération. On les forme aussi à comment je fais pour demander de l'aide. Donc, on a fait évoluer le tétraèdre en papier avec des gobelets. On a les gobelets de trois couleurs, c'est beaucoup plus visuel. Et déjà, ils sont tous capables, parce que plus on monte dans les classes, ils ne vont pas demander de l'aide, ils vont se cacher au collège. Donc là, c'est très visuel, ils n'ont pas besoin de demander quoi que ce soit. Et ils peuvent se faire aider par un camarade ou par l'enseignant qui, du coup, est plus disponible puisqu'il a changé sa posture de classe. Donc déjà, on les forme à demander de l'aide, on les forme sur les devoirs faits, à la coopération, à l'entraide. Et aussi, on les a formés sur tout ce qui est compétences psychosociales. Tous les élèves de 5e ont 1h15 sur les compétences psychosociales.
Alors, l'autonomie est justement privilégiée au travers des plans de travail. Ça veut dire que chaque élève a un panel d'activités à faire. Par exemple, on va travailler sur un sujet précis. Ça peut être par exemple la reproduction humaine. Et ils vont avoir tout un panel d'activités. Ce qui fait que les élèves en grande difficulté vont quand même avoir des activités qu'ils vont pouvoir faire. Ils vont choisir que les activités qui seront adaptées. Les élèves qui sont HPI, qu'on a aussi dans chaque classe, vont aussi avoir des activités qui vont les pousser plus loin. Et donc, chacun va faire un certain nombre d'activités. Donc, on leur laisse une autonomie dans le choix d'activités, sachant qu'on peut quand même poser certaines activités obligatoires. Mais ils ont aussi une liberté dans la salle. Certains vont aller utiliser les microscopes pendant que d'autres vont faire des manipulations. D'autres vont travailler sur support informatique, donc vont faire utiliser des documents papier. Donc, en fait, on leur laisse la liberté et de support et dans l'espace et dans le temps, de faire les activités qui sont le plus adaptées possible à leur niveau et à leurs besoins.
Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté en tant qu'enseignant et enseignante, Jérôme Cavaroc?
Pour moi, le changement de posture m'a apporté vraiment un apaisement dans mon métier. Ça veut dire que quand j'étais dans une posture frontale, j'avais tendance à vouloir essayer de garder le contrôle sur toute la classe, qui était très énergivore, et j'y retrouvais pas le plaisir d'enseigner parce que c'était uniquement vertical. Là, le fait d'être avec les élèves, d'aider en fonction des besoins, je ne fais quasiment plus de discipline dans ma classe. Et ça veut dire que les élèves, en plus, ont une confiance réciproque. Ils sont capables de demander de l'aide, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Ils sont capables de travailler en autonomie. Et même certains élèves qui étaient très éloignés de l'école, le fait qu'ils aient des activités qui soient adaptées à leur niveau, ça permet de les remettre un petit peu en marche. Parce que quand on est en frontal, que tout le monde fait la même chose, ben, certaines activités ne sont pas adaptées aux élèves les plus en difficulté ou les plus rapides. Le fait de changer de posture, ça permet d'avoir des élèves qui sont plus apaisés. D'ailleurs, les faits établissements, les cas de violence, d'expulsion de cours, les heures de colle ont diminué de 30 à 40% depuis qu'on a mis en place ce fonctionnement dans nos classes.
Karine Savoya, qu'est-ce que ça vous a apporté en tant qu'enseignante ?
De l'apaisement également, du plaisir, puisque j'ai vraiment plaisir à retrouver mes élèves. Et finalement, on revient aux fondamentaux de notre travail, enfin de nos missions, à savoir être présent pour les élèves et répondre. Là, c'est vraiment différent, on ne leur apporte pas alors qu'ils n'en ont pas besoin. Ce sont eux qui nous font part de leurs besoins et on répond à un temps T à leurs besoins. Conclusion, là, je retrouve vraiment le plaisir d'enseigner.
Céline Escourou, pardon.
Dans l'école inclusive, c'est tout à fait normal de travailler comme ça. Mais ce que je vois au niveau de l'équipe, c'est un épanouissement de l'équipe. En fait, on voit qu'ils changent complètement de posture. Ils changent même de positionnement, leur avis sur les élèves. Et ils acceptent tout ce qui paraissait pour eux impensable. De se lever, de faire autre chose, ou que tout le monde ne fasse pas la même chose. Donc, on voit vraiment un épanouissement et un bien-être au niveau de l'équipe.
Et est-ce que vous observez des progrès chez vos élèves depuis que vous avez mis en place ces dispositifs ? Karine Savoya.
Alors moi, c'est vrai que ce n'est pas depuis que nous avons mis en place ce projet, puisque finalement, il n'a été validé qu'en février, si ma mémoire est bonne. Mais moi, je l'ai expérimenté en amont, dans ma classe. Personnellement, ça fait 2-3 ans. Et là, je vois, oui, qu'en effet, les élèves sont beaucoup plus actifs, acteurs, aiment se produire dans le centre de l'oral. Alors, je ne dis pas que ce sont des super orateurs, mais ils n'ont aucune difficulté à se lancer dans du slam, dans du théâtre, dans du doublage, etc. Donc vraiment ce plaisir-là, des démarches et une attitude d'écrivain aussi au centre. Je pense que j'ai vu l'évolution au début, que l'on constate dans toutes les classes auprès de tous nos élèves qui sont réfractaires face à l'écrit, qui ne trouvent pas d'idées. Donc dans ce centre d'écrivain, on leur apprend à construire avec des stratégies qui s'appuient sur des albums et ils deviennent vraiment beaucoup plus autonomes et leurs textes s'enrichissent et ils acceptent de réviser leurs textes. Je vois des élèves que j'ai en CM2 à l'heure actuelle qui avaient commencé des textes en CE2 qui reviennent maintenant alors qu'ils sont en CM2 sur ces textes là et ils en ont fait des pépites et je suis admirative du résultat parce qu'ils ont osé reprendre un texte, ce qui est très rare chez la plupart des élèves à l'heure actuelle. Reste par contre l'étude de la langue où là il est difficile d'évaluer les effets puisque c'est tout récent et pour l'instant on n'est pas assez suffisamment outillé pour avoir des outils justement ciblés et variés pour permettre à tous les élèves qui sont en difficulté ou autres de pouvoir apporter des réponses spécifiques.
Donc, avez-vous des objectifs pour la suite, Céline Escourou ?
Des objectifs. Donc là, on est sur de l'aménagement de l'espace au niveau des classes, bien sûr, mais on part vraiment sur une autre structuration du collège. On aimerait des aménagements dans le hall du collège, dans la cour du collège, où on laisse vraiment les élèves en autonomie et qu'ils s'autogèrent sur des espaces où ils sont beaucoup plus libres de faire leurs activités et qu'on n'ait pas ces moments de tension qu'on peut avoir sur les récréations ou l'entre-midi et deux, puisqu'ils sont tous parqués, parqués dans la cour en n'ayant rien à faire, à part chahuter, et finalement, ça termine plutôt mal. Et les prochains objectifs, c'est là des Erasmus élèves, où on va développer un tas de compétences en faisant des Erasmus élèves, et aussi une première pour l'autre, si j'ai tous les avals, un Erasmus avec des élèves que du dispositif Ulysse.
Karine Savoya, est-ce que vous avez des objectifs pour la suite ?
Alors, pour la suite, au niveau de l'oral, j'aimerais développer plus encore avec soit une web radio, nous pourrions aussi élaborer un journal d'école. Enfin, il y a plein d'idées pour justement donner plus de sens encore à chacun de ces centres, même organiser un concours de l'éloquence, pourquoi pas. Enfin, de multiples possibilités, après quoi à très long terme, puisque là, pour l'instant, j'aimerais déjà pouvoir finaliser le français, mais pourquoi pas les mathématiques avec des centres de numératie qui se pratiquent déjà au Canada. Et après quoi, pourquoi pas une école totalement flexible sur l'ensemble des apprentissages. À voir.
Notre entretien touche à sa fin. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et félicitations pour vos projets, Karine Savoya, Céline Escourou et Jérôme Cavaroc. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur ces projets dans les ressources de cet épisode, sur le site de Cadécole ou sur le site de la GNI. Nous vous invitons à écouter les autres porteurs et porteuses de projets avec qui nous avons eu la chance de nous entretenir. À la réalisation, Eva Rousseau, à la régie et au mixage, Sébastien Boudin. À bientôt sur Cadécole.